si vous voulez. On va essayer de terminer l'épopée des Camisards ce soir. Et nous étions restés la dernière fois au moment où Cavalier traite avec l'ennemi. Une initiative qui, au départ, pouvait se concevoir et s'il avait été bien menée, aurait pu effectivement aboutir à des résultats positifs. Mais nous avons vu déjà que la dernière fois que Cavalier s'était quelque peu laissé berner par ses interlocuteurs, qui étaient évidemment beaucoup plus experts que lui en diplomatie. Cavalier était certainement quelqu'un de très compétent sur le plan militaire, sur le plan de la négociation, nettement moins. Et petit à petit, on va voir Cavalier évoluer vers ce qui va quand même ressembler de plus en plus à une véritable trahison, en tout cas qui sera reconnue comme telle par les autres chefs camisards, en particulier par Roland. Dès le départ, Roland, en effet, est en désaccord avec l'initiative prise par Cavalier d'ouvrir des négociations avec l'ennemi. Et ceci d'autant que l'ambiance prophétique, c'est-à-dire les prophéties qui apparaissent dans les réunions, notamment celles qui ont lieu autour de Calvisson, ne semblent pas être favorables justement à une initiative de ce type-là. Mazel, par exemple, qui est un des prophètes, des grands prophètes respectés, déclare que la rencontre à laquelle s'est rendu Cavalier est en fait une ruse. Or, ce qui est paradoxal et ce qui est dommage, n'est-ce pas, c'est que au moment où Cavalier dépose les armes, parce que c'est finalement de cela qu'il s'agit, et par conséquent affaiblit considérablement le parti Camisard, eh bien, les puissances sont prêtes à venir au secours de la révolte. Bien évident que la défection de Cavalier les amène à hésiter. Alors évidemment, on ne peut pas réécrire l'histoire et on ne peut pas faire de l'histoire fiction et dire ce qui se serait passé si. Mais peut-être qu'effectivement, si les puissances protestantes avaient vu un front beaucoup plus uni de la part des Camisards, peut-être auraient-elles été enclintes à intervenir d'une manière beaucoup plus ferme qu'elles ne le feront en fin de compte. Maintenant, Cavalier va faire un pas de plus. En effet, il commence par renier tout le ministère du Saint-Esprit. Lui-même a été un prophète reconnu qui a prophétisé des choses qui se sont avérées exactes. Il avait un don de révélation extraordinaire jusqu'à démasquer le péché dans le cœur des uns et des autres, n'est-ce pas? Et voilà que, disons par opportunisme, parce que le ministère du Saint-Esprit est mal vu, n'est-ce pas? Eh bien, Cavalier déclare que tout ça était humain, voire diabolique, que ça n'avait rien à voir avec l'Esprit de Dieu véritable. Et non content d'avoir ainsi ouvertement apostasié le ministère du Saint-Esprit, mais il demande pardon à Dieu et au roi. Non seulement d'avoir exercé le ministère du Saint-Esprit, mais aussi d'avoir pris les armes. Donc on touche à la trahison. Bien sûr, il est difficile de juger d'une manière absolument objective, c'est finalement Dieu seul qui sonde les reins et les cœurs. Néanmoins, on ne peut pas s'empêcher de se dire que là, Cavalier a quand même failli. En tout cas, lorsque ces terribles nouvelles atteignent le camp des enfants de Dieu, Cavalier est désavoué comme traître à l'unanimité, et les frères rompent avec lui. Il est qualifié de faux frère et de séducteur. Finalement, seuls 50 camisards suivent Cavalier. Le reste se rallie à Roland, à Mazel et aux autres chefs camisards. Il est certain que la démarche de Cavalier, comme je disais tout à l'heure, aurait pu se concevoir si elle avait été bien menée. En effet, les camisards sont pressés quand même de plus en plus, c'est pas, ils sont affamés en particulier. On aurait pu effectivement négocier encore dans une position de force. Mais il aurait fallu, se battre pied à pied dans la négociation aussi fermement que l'on s'était battu sur le champ de bataille. Maintenant, il y a un autre élément qui va intervenir, n'est-ce pas, contre les Camisards, c'est qu'à Londres, les pasteurs du refuge vont prendre position contre le ministère du Saint-Esprit. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que dans le réveil qui a marqué les Cévennes, le réveil prophétique des Cévennes, il y a eu des excès, c'est indéniable. Il y a eu des exagérations. Il y a eu des fausses prophéties. Dans quel réveil charismatique n'y en a-t-il pas ? On pourrait d'abord poser la question. Mais il y a eu aussi des choses authentiques et vraies. Et voilà que les déviations et les excès, qui vont d'ailleurs devenir de plus en plus nombreux dans la dernière partie justement de l'épopée Camisarde, ça veut dire celle qui nous intéresse ce soir justement, c'est pas ? Ces exagérations, ces fausses prophéties vont être montées en épingle, notamment par les pasteurs de Londres, il faut bien dire le mot, c'est pas ? Pour discréditer l'ensemble du réveil prophétique. Et cette mauvaise réputation qui a été donnée, n'est-ce pas, au réveil prophétique des Cévennes, eh bien, subsiste jusqu'à aujourd'hui, notamment dans les milieux réformés. Et l'une des raisons, voyez-vous, les conséquences lointaines de cette tragédie, l'une des raisons pour lesquelles, en France, dans les églises issues de la réforme, c'est-à-dire réformées et un petit peu moins luthériennes, mais quand même, surtout réformées, le réveil charismatique des années 70 n'a pas eu, pour ainsi dire, aucun écho, c'est justement parce qu'on gardait le souvenir de ces condamnations des pasteurs du désert, des pasteurs de Londres, contre justement le réveil prophétique des Cévennes. Voyez-vous les effets que cela peut avoir à long terme. Or, les prophètes ne se découragent pas. Et il y a une affirmation des prophètes qui dit ceci: ces gens ont travaillé contre les miracles de Dieu, mais Dieu saura bien les faire reconnaître. L'un des principaux leaders camisards qui tient ferme pour le réveil prophétique est Salomon Couderque, qui un jour, n'est-ce pas, est amené à faire le tri, comme Gédéon l'avait fait, entre les guerriers qui doivent venir avec lui à la bataille et ceux qui doivent rester en arrière. En effet, après la défection de cavaliers, les camisards reprennent leurs attaques. Les catholiques, je veux dire, reprennent leurs attaques. Les camisards, donc, recommencent aussi le cycle des représailles. De son côté, Roland a lui aussi décidé de prendre contact avec l'ennemi. Mais à l'inverse du cavalier, il fait traîner en longueur les négociations, ce qui était d'ailleurs la bonne méthode, ce que Cavalier aurait dû faire. Le 26 août, désavoué par tous, Cavalier et ses 50 compagnons quittent clandestinement le royaume. Ils passent en Suisse, soi-disant pour soulever les puissances contre le roi de France, et ils se réfugient à Neuchâtel, puis de là à Lausanne. Là, il envoie une lettre au roi, parce que Cavalier est amer. Cavalier, en effet, pensait que son ralliement allait lui valoir une entrevue avec le roi. Et lui, le petit boulanger d'Anduze, il se voyait discutant presque d'égal à égal avec le roi. Mais le roi, évidemment, n'a pas daigné même répondre à sa demande d'audience. Et contrairement à ce que lui avait promis Villars, d'ailleurs, Villars n'avait pas le moindre doute que le roi ne le recevrait pas. Mais pour mieux l'appâter, Villars lui avait laissé entendre que le roi était prêt à le recevoir. Et Cavalier l'avait cru dur comme fer. Quand il se rend compte qu'il a été joué et que le roi n'entend pas du tout le recevoir, Cavalier décide donc de s'enfuir. Et depuis son refuge, il écrit au roi pour expliquer son geste, qui pourrait passer pour une trahison auprès du roi, en disant que il a accompli ce geste de trahison parce que lui-même se sent trahi. La parole que lui a donnée le maréchal de Villars au nom du roi n'ayant pas été tenue, il s'est donc senti libre lui aussi de revenir sur la parole qu'il avait donnée. C'est alors que les puissances vont décider d'intervenir, les puissances protestantes. Et en effet, un certain nombre de navires anglais, hollandais et autres, n'est-ce pas, se massent au large des côtes du Languedoc. Les Camisards, qui se comparent aussi d'une certaine manière aux Maccabées, pensent qu'effectivement, là, c'est une intervention de Dieu. Seul Roland, n'est-ce pas, n'a pas trop d'illusions. Il n'a pas confiance aux alliés. Il soupçonne ces derniers de les utiliser simplement pour affaiblir les troupes françaises, ce qui était d'ailleurs le cas dans pareilles circonstances. Roland avait vu juste, Roland avait manifestement un sens politique et diplomatique beaucoup plus aiguisé que celui de Cavalier et des autres chefs camisards. Maintenant, à partir de cette période, les camisards vont malgré tout accepter les conseils d'un certain nombre de pasteurs du désert leur ont communiqué par l'intermédiaire de transfuges, n'est-ce pas, c'est d'éviter de massacrer indistinctement la population catholique. Et là, effectivement, Roland va donner des ordres dans ce sens pour que on ne massacre plus comme ça la population catholique, notamment ceux qui étaient innocents. Roland se rend à Maillé, sa ville natale, et c'est alors qu'il reçoit dans son mât, le fameux mât Soubéran, où est maintenant le musée du désert, n'est-ce pas, il reçoit la visite d'un certain Cornélie et de sa femme, de sa belle-sœur d'ailleurs. Et pendant l'entretien, le mât est investi. Roland a été trahi. Et là, il va parvenir à s'enfuir. Il saute, n'est-ce pas, par la fenêtre et il s'enfuit. Mais il est poursuivi par des cavaliers en particulier. Et lui, il est à pied, forcément. Il est vite rejoint et il va livrer un ultime combat désespéré. Il mourra les armes à la main, tué à bout portant par un des soldats. Le reste de ses compagnons sont capturés. C'est le 14 août qu'a lieu ce drame. En perdant Roland, bien sûr, la révolte camisard perd son chef essentiel. Elle a déjà perdu Cavalier, qui, nous l'avons vu, s'est enfui en Suisse, si bien que là, la révolte est quasiment décapitée. Les compagnons de Roland sont condamnés à mourir sur la roue, et ensuite, après avoir été roués vifs, ils sont condamnés à être brûlés vifs. Et alors, on assiste à ce spectacle tout à fait extraordinaire d'un des martyrs prophétisant sur la roue avant d'être brûlé vif. 5 jeunes gens meurent ainsi d'une mort héroïque, mais c'est un coup terrible porté à la résistance, bien évidemment. À partir de ce moment-là, la résistance camisarde s'effondre. Les unes après les autres, les caches tombent, les troupes royales découvrent les caches qui avaient été organisées par Roland, par Cavalier en particulier. Ils détruisent tous les moulins, affamant un peu plus la population camisarde. Et c'est alors que Mazel a une prophétie inspirée d'Ésaïe 40, « Consolez, consolez mon peuple ». En fait, malgré des encouragements comme cela, petit à petit, par petits paquets, les camisards suivent l'exemple de Cavalier et se rendent. Mais à cette époque-là, en 1704, il reste encore entre 25 et 30 000 hommes qui sont encore à la révolte. Cependant, petit à petit, les gouvernementaux reprennent l'avantage. Lorsque les camisards se rendent, ils obtiennent quelques promesses, notamment le fait qu'on ne les obligera plus à aller à la messe. C'est un résultat quand même tangible qui est celui de leur révolte. Deuxièmement, ils pourront prier en privé, ce qui leur était interdit aussi avant la révolte. Et ceux qui le veulent sont autorisés à quitter le royaume, ce qui aussi leur était interdit auparavant. Si bien qu'avec ces promesses, qui sont tenues d'ailleurs, n'est-ce pas, les camisards estiment que finalement la révolte a abouti à des résultats non négligeables, ce qui est exact, et que somme toute, au point où on en est arrivé, on peut en rester là. on peut accepter ce qui, évidemment, est très en dessous de ce qu'ils avaient espéré en prenant les armes, mais qui, malgré tout, n'est quand même pas négligeable. Si bien que la majorité des camisards va finalement déposer les armes après avoir obtenu ces résultats-là. Seule une poignée d'irréductibles, menée par Jacques Bonbonnou, va maintenir la flamme de la révolte, ainsi que d'ailleurs que Abraham Mazel. Abraham Mazel aussi est un homme qui ne dépose pas les armes. Il y a une ultime attaque que les camisards groupés autour de ces deux hommes vont tenter, mais qui sera une défaite, n'est-ce pas, et qui n'aboutira pas. Mazel écrira ceci: « Nous savions que Dieu était le même. » C'était sur son ordre, sur l'ordre du Saint-Esprit, que nous avions pris les armes. Nous avions reçu alors la victoire. Et tout d'un coup, Dieu, l'Éternel des armées, a retiré sa main d'au-dessus de nos armées. Mais il nous a avertis et consolés par le Saint-Esprit. Voilà. Voilà donc où en sont les camisards le 17 octobre 1704, où quelques-uns des principaux chefs camisards ayant fait cette constatation, c'est-à-dire Marion, La Rose et La Forêt, se rendent. Marion était un des principaux chefs qui restait encore, n'est-ce pas? Et la reddition de ces trois chefs va encore affaiblir le petit noyau qui résiste encore. Le roi accorde une amnistie à tous ceux qui déposeront les armes, mais il refuse toujours la liberté de culte totale qui avait été demandée. Alors le roi va quand même faire une nouvelle concession lorsque ces trois hommes se rendent, c'est-à-dire que il y a une autorisation qui est donnée par le roi de posséder la Bible, ce qui était interdit jusqu'alors, vous en souvenez. Par contre, chose extraordinaire, le roi maintient à mordicus l'interdiction de chanter des psaumes. Vous allez comprendre pourquoi Louis XIV avait quelque chose contre les psaumes à ce point-là, tellement que bon, il interdit le chant des psaumes, en public en tout cas, bien sûr. Néanmoins, lorsque les camisards se rendent, ils ne sont quand même pas entièrement naïfs et ils cachent leurs armes soigneusement avant de se rendre et ils rendent à l'ennemi des vieilles pétoires toutes rouillées et complètement inutilisables. On ne sait jamais, si jamais il fallait reprendre les armes, on aurait de quoi faire. Un certain nombre quittent le royaume, certains avec l'intention de revenir pour reprendre la révolte quand les circonstances seront plus favorables. Et notamment Marion, quand il se rend, reçoit la révélation d'avoir à être prêt de retourner vers ses frères pour reprendre le combat. Alors il écrit ceci: « Le Seigneur me disait que je n'avais rien à craindre, mais qu'il y aurait encore beaucoup de sang qui serait répandu. » Le seul qui résiste encore, par conséquent, enfin les deux seuls qui résistent encore, sont Mazel et Bonbonnou. Et c'est ainsi qu'en janvier 1705, Mazel, qui préside une assemblée, est arrêté. Et bien entendu, la capture de Mazel, c'est une grande victoire pour le parti catholique. Mazel était celui qui a levé l'étendard de la révolte, qui a dirigé l'expédition, la fameuse expédition du pont de Montvert, et qui était un irréductible, farouchement déterminé à lutter jusqu'à la dernière goutte de son sang, et son sort ne fait aucun doute, bien évidemment. Vous vous souvenez peut-être que, tout à fait au début de la révolte, Mazel, inspiré par le Saint-Esprit, avait demandé la grâce d'un des curés, le curé de Saint-Martin. Et voilà qu'au moment où Mazel est capturé, le curé de Saint-Martin apprend la capture de Mazel et décide de lui rendre le bienfait qu'il lui a jadis donné. De la même manière que Mazel a empêché à ses compagnons de tuer le curé de Saint-Martin, maintenant le curé de Saint-Martin est bien décidé à obtenir la grâce de Mazel et c'est ainsi que les choses vont se passer. Et Mazel va comprendre pourquoi le Seigneur lui avait demandé la grâce du curé de Saint-Martin, parce que maintenant ça va lui valoir la vie sauve. Au lieu d'être condamné à mort, Mazel est condamné à être enfermé pour le restant de ses jours à la tour de Constance. Vous allez me dire que ce n'est pas l'idéal, bien sûr, mais vous allez voir ce qui va se passer, mais n'anticipons pas. Ce qui détermine les ultimes camisards à résister, c'est toujours l'illusion que les puissances protestantes vont finir par intervenir. Bien entendu, si Roland avait vécu, il aurait dit que si les puissances avaient été pour intervenir, il y a longtemps qu'elles l'auraient fait. Mais un homme comme Bonbonou, Mazel maintenant est hors course, il est vivant, mais il est quand même neutralisé totalement, il est à la tour de Constance. Bonbonou reste seul en piste. Eh bien, Bonbonou, qui est jeune, très très jeune, n'est-ce pas, est un des plus jeunes chefs, et vit encore dans l'illusion de l'intervention des puissances protestantes. Un autre drame frappe les Camisards au début de l'année 1705. Le mari de la Blondine, qui est une des principales prédicantes qui a été pendue, vous vous en souvenez, est arrêté à son tour. C'était lui aussi un des derniers irréductibles. Quant à Marion, le 5 mars, il arrive à Arles, où il reçoit une prophétie qui lui dit ceci: « Il y aura beaucoup de sang répandu, de grandes calamités dans le pays. » Vous serez dispersés, mais en fin de compte, Dieu rassemblera son peuple. Et c'est en gros d'ailleurs ce qui va se passer. Effectivement, les derniers résistants vont être vaincus, certains capturés, il y aura de nombreux martyrs, beaucoup de sang répandu. Les ultimes résistants comme Bonbonou se disperseront, mais en fin de compte, la cause protestante finira par triompher dans ce sens que le protestantisme ressurgira après justement cette flambée de violence. Le retour de Marion donne le signal d'une nouvelle révolte, malgré le fait qu'un prophète annonce l'échec du soulèvement. Marion commence par organiser une assemblée du désert, mais il néglige de poster des sentinelles sur une inspiration du Saint-Esprit. En effet, les choses vont bien se passer, et malgré le fait qu'il n'y a pas de sentinelles, l'assemblée va se dérouler à peu près bien. C'est le moment où le pape Clément XI appelle une véritable croisade contre les protestants. Comme autrefois, on avait appelé à une croisade contre les albigeois, on réclame maintenant une croisade contre les protestants. Rien que ça. Ça montre combien les Camisards avaient su se faire craindre et redouter dans toute l'Europe. C'est non seulement maintenant le roi qui a envoyé en Languedoc ses meilleures troupes, mais c'est le pape lui-même, n'est-ce pas, qui maintenant appelle à une véritable croisade, comme autrefois on l'avait fait contre Jérusalem. Dans le même temps, alors il accorde l'absolution à tous ceux qui combattront, ça veut dire que s'ils meurent au combat, ils iront directement au paradis, comme c'était le cas dans toutes les croisades, que ce soit la croisade des Albigeois, que ce soit la croisade contre les musulmans, les croisades contre les musulmans. Dans le même temps, un autre chef Camisard est capturé, Constant. Il va être roué vif. Mais en même temps, un autre complot se trame. Constant, alors qu'il est sur la roue, les membres brisés, reçoit une prophétie. Et voilà à peu près ce qu'il dit pendant qu'il est sur la roue. « Nombre de mes enfants seront mis à mort, mais leur sang hâtera la délivrance plus que ne l'aurait fait leur vie. » Voilà. Et pendant qu'il prophétise, il se met à chanter, après avoir prophétisé exactement avec ses autres compagnons, il se met à chanter le psaume 51. C'est plus qu'il n'en faut pour les officiels qui président à l'exécution. On fait rouler les tambours pour couvrir la voie des condamnés. Malgré le fait que les tambours roulent, eh bien, les condamnés parviennent malgré tout à chanter jusqu'au bout le psaume 51. Effectivement, il y a de nombreuses exécutions qui vont suivre l'exécution de Constant et de ses compagnons. Selon la prophétie, il faut que le nombre des martyrs soit complet, avait dit aussi Constant, et ce sang hâtera notre délivrance. En juillet 1705, Marion se rend pour une seconde fois. Il est traduit devant le duc de Berry à Montpellier. Et c'est là que on réalise que finalement il y avait un complot qui était monté pour une reprise de la révolte à grande échelle entre Marion justement et Constant. Alors les comploteurs sont condamnés à mort et les chefs camisards sont exécutés. Il y a tous les jours des supplices pendant ce terrible mois de juillet 1705. Malgré les encouragements prophétiques de Marion, ça veut dire que ces gens-là marchent au supplice courageusement grâce aux encouragements prophétiques de Marion. Chose extraordinaire, Marion lui-même va échapper à la roue, en ce sens qu'il va bénéficier d'une deuxième amnistie avec même le droit de sortir du royaume. Il est libéré en août 1705, après avoir passé quelque temps dans la prison de Montpellier. Et c'est alors que le 22 juillet, Mazel et 16 frères qui sont emprisonnés avec lui dans la tour de Constance s'échappent de la tour de Constance. Et là, on comprend aussi toujours mieux l'inspiration de Mazel, qui avait reçu l'ordre d'épargner le curé de Saint-Martin, car ce n'était pas du tout pour rester à moisir dans la tour de Constance, même après avoir eu la vie sauve, que le Seigneur l'avait ainsi épargné, mais c'était justement pour lui permettre, avec 16 de ses compagnons, de s'échapper. Marion avait décidé d'accepter l'amnistie et de partir, et il se joint à une caravane pour la Suisse. Mazel, lui, va les rejoindre et va lui aussi finalement se réfugier en Suisse. C'est assez extraordinaire parce qu'il était le partisan le plus convaincu de poursuivre la révolte, mais là, sur une prophétie donnée par Marion, eh bien, il décide de se réfugier lui aussi en Suisse, se disant que peut-être un jour le Seigneur le renverrait reprendre les armes. Alors, comment Mazel avait-il réussi cet exploit de s'échapper de la tour de Constance dont on ne s'échappait pas? C'était considéré comme une des prisons les plus sûres du royaume. D'abord, il faut dire que Mazel avait reçu une révélation comme quoi il devait se préparer à sortir de la tour de Constance, à s'en échapper. Et il avait donc réussi à percer cette muraille qui faisait une épaisseur considérable avec un instrument de fer forgé au feu à partir du boulet qui était attaché à leurs pieds. Vous savez, les prisonniers à cette époque-là étaient attachés avec des boulets, avec des chaînes, comme on voit dans les bandes dessinées, les bagnards traditionnels, n'est-ce pas? Et alors, bien entendu, l'hiver, il y avait un grand feu dans la cheminée. Et grâce à une tige de fer, n'est-ce pas, qui reliait le boulet à leur chaîne qu'il avait réussi à détacher, Mazel et ses compagnons avaient réussi à forger un instrument grâce auquel ils avaient décelé des pierres dans la muraille et finalement ils avaient réussi à percer cette muraille-là. Mazel dit que chaque fois qu'il travaillait à son évasion, il sentait l'onction du Saint-Esprit venir sur lui, lui prouvant qu'il était véritablement dans le plan de Dieu. Il a fallu 4 jours pour percer la muraille de la tour de Constance, et lorsque la muraille a été ainsi, le trou a été assez large pour laisser passer le corps d'un homme, eh bien, ils ont déchiré leurs draps et ils ont fait une corde avec leurs draps. Mais, malheureusement, un des prisonniers avec eux les a dénoncés. Et alors, les choses auraient pu mal tourner s'ils n'avaient décidé de précipiter leur fuite. Heureusement, n'est-ce pas? Et le soir même, donc, il y avait une inspection partout, n'est-ce pas, cherchant l'endroit où était le trou, un muraille, n'est-ce pas, bon, rien trouvé. Alors, il a été décidé de reprendre les recherches le lendemain, et ils auraient trouvé à coup sûr, c'est évident, n'est-ce pas, si Mazel n'avait pas décidé de partir le soir même, donc de brusquer les choses. Ainsi, donc, la corde n'était pas assez grande exactement pour aller jusqu'en bas de la tour, mais enfin, au risque de se rompre les os, ils avaient fait un saut prodigieux, n'est-ce pas, les 16 avaient fait un saut prodigieux, s'étaient retrouvés à l'air libre, et puis s'étaient enfuis dans les marais de la Camargue. Immédiatement, l'alerte avait été donnée, on avait ratissé tous les endroits, bon, en vain, Mazel et ses compagnons avaient réussi à s'échapper. Mazel donc s'était joint à Marion pour repartir en Suisse, mais un certain nombre d'autres évadés avaient décidé de se rendre en Catalogne voisine, et là ils avaient participé à la révolte des Catalans contre Philippe V. Seul Salomon Couderc avait été arrêté et brûlé vif. Mazel et ses compagnons étaient conscients, ils avaient l'impression de vivre les temps de la fin, l'apocalypse, et c'est pourquoi ils étaient décidés fermement à reprendre les armes. Les compagnons de Mazel en particulier pensaient que la révolte de Catalogne allait permettre l'accomplissement des grandes guerres de la fin qui allaient entraîner le retour du Seigneur, alors qu'ils étaient conscients maintenant que les puissances protestantes les avaient platement abandonnés. Ils comptaient beaucoup sur cette révolte de la Catalogne. Mais nombre de camisards étaient quand même restés dans le pays. Depuis la Suisse où il s'était réfugié, Marion reçoit du Saint-Esprit l'ordre de se rendre à Londres, vraisemblablement pour y plaider la cause des camisards qui étaient mal en point là-bas, comme nous l'avons vu. En août 1706, Cavalier s'embarque pour l'Espagne avec ses troupes pour lui aussi prendre part à la révolte de la Catalogne. Malheureusement, une tempête l'oblige à rebrousser chemin. Le 25 avril 1707 a lieu à Almoça, au Portugal, une bataille décisive au cours de laquelle les Catalans et leurs alliés sont défaits par Philippe V. Cavalier avait réussi malgré tout à rejoindre avec ses armées le camp des révoltés. Il va être gravement blessé dans cette bataille-là. La bataille se poursuit avec différents mouvements alliés. Et en juillet de la même année 1707, les Alliés tentent de s'emparer de la ville de Toulon, le siège avorte. En 1708, de nouvelles tentatives de débarquement ont lieu dans le Languedoc, et dans le même temps, des prophètes essayent de soulever les derniers camisards pour prendre le parti des Alliés, pour venir au secours justement des révoltés. Ce sont les prophètes qui, depuis Cordes, n'est-ce pas, tentent de lancer les camisards dans la bataille. C'est dans cette même année que Marion reçoit l'ordre de se rendre à Londres, où sont déjà là-bas 30 000 réfugiés français. Dans la seule ville de Londres, il y a 30 000 réfugiés français qui sont répartis en 30 églises françaises. Marion voit dans le réveil charismatique, le réveil du Saint-Esprit, l'accomplissement de la prophétie de Joël, vos fils et vos filles prophétiseront, etc., et par conséquent une preuve que le retour du Seigneur est proche. Il aura la même réaction, n'est-ce pas, que les pentecôtistes au début du siècle, lorsqu'ils seront conscients de vivre la prophétie de Joël et annonceront donc que Jésus revient bientôt. Et chose est tout à fait étonnante, Marion prophétise par le Saint-Esprit alors que précisément les églises de Londres, tant anglaises que françaises, refusent de recevoir ce message-là. Alors Marion va prophétiser quelque chose de tout à fait étonnant. Marion annonce que dans un temps très éloigné, la ville de Londres connaîtra un véritable déluge de feu. Et on ne peut pas ne pas penser au Blitz qui s'est abattu sur Londres en 1940. C'est pas comme si là, Marion avait eu une intuition qui était véritablement juste, qui était véritablement du Saint-Esprit. En tout cas, pour l'heure, on n'en est pas là, et en 1707, la populace londonienne est très très montée contre les prophètes sévenols. Et c'est pour tenter de défendre la cause des prophètes que Marion publie à Londres, dans ces années-là, le théâtre sacré des Cévennes, d'où nous tirons l'essentiel des informations sur le réveil des Cévennes et sur la guerre des Cévennes. Finalement, tout ce que nous étudions là vient essentiellement du livre de Marion, c'est pas le théâtre sacré des Cévennes. Marion est arrêté après la publication de ce livre et il est condamné au pilori, c'est-à-dire qu'il est condamné à être exposé, attaché à une espèce de pieu, n'est-ce pas, avec une inscription qui indique le motif de sa condamnation. Et c'est un supplice infamant, beaucoup plus d'ailleurs qu'un supplice autre que celui-là. Cavalier, lui, nous l'avons vu, a renié l'action du Saint-Esprit et il n'a donc pas les mêmes ennuis. Néanmoins, n'est-ce pas, quand il arrive à Londres, dans le même temps, après avoir récupéré un peu des blessures qu'il avait subies dans le fameux combat où il avait été blessé, essaye, n'est-ce pas, quand même de défendre aussi quelque peu les prophètes, mais bien entendu d'une manière beaucoup plus diplomatique et beaucoup plus nuancée. Et c'est alors que le 26 mars 1709, venant de Suisse, Mazel revient en Languedoc avec l'intention ferme de reprendre les armes. Et immédiatement, le bruit court que les Camisards sont de retour. Le 12 mai, il tente une embuscade à des soldats qui devait marquer le début du nouveau soulèvement du Languedoc. Et le 22 juin, une nouvelle victoire camisarde est enregistrée. Mais hélas, le 8 juillet, il y a une revanche royale. Les forces royales ont l'avantage. Mazel et Clarisse, qui s'est mis avec lui à la tête des armées camisardes, parviennent à s'échapper, toujours avec ce fallacieux espoir de l'intervention des puissances protestantes. Malheureusement, Clarisse et Mazel... être l'instrument choisi par Dieu pour réaliser la dernière vision de Clarisse, la foule immense qui loue Dieu. Mais Antoine Court, qui participe secrètement aux réunions du désert, c'est pas avec sa mère, qui est une femme très pieuse, et qui pendant tout un temps croit vraiment à l'inspiration du Saint-Esprit, constate que de nombreuses prophéties qui sont données après la mort des deux prophètes, des deux derniers prophètes, ne s'accomplissent pas. Et petit à petit, Antoine Court va se mettre à douter de l'authenticité du réveil. Il est trop jeune pour avoir connu les grands prophètes. Il est trop jeune pour avoir connu les prophéties véritables, n'est-ce pas ? Alors, pour lui, il va tout rejeter. Et il va entraîner le protestantisme renaissant pourtant grâce à ce réveil prophétique, il va entraîner le protestantisme renaissant à prendre position contre le réveil charismatique, contre le réveil de l'esprit, et ce sera finalement une grande tragédie. Bon, l'épopée peut se terminer aussi en mai 1712, au moment de la paix d'Utrecht, au cours de laquelle les Alliés abandonnent définitivement les Huguenots français. C'est vraiment la fin du temps des prophètes. L'armée ennemie remporte deux nouvelles victoires. Pendant tout ce temps-là, jusqu'à cette date, Marion va parcourir toute l'Europe pour tenter de défendre la cause prophétique et annoncer le retour imminent du Seigneur. Il meurt en 1713, un an après la paix d'Utrecht. Il est âgé de 35 ans. Quant à Cavalier, lui va se récupérer habilement. Il deviendra gouverneur de Jersey. Et il mourra le 17 mai 1740. Comblé d'honneur, extrêmement riche, etc. Il a réussi un bon rétablissement sur le plan humain. Sur le plan du royaume de Dieu, c'est peut-être autre chose. Il faudra attendre 1861 pour que les Camisards, qui vont être honnis par les protestants eux-mêmes. C'est ça, là, c'est quelque chose de triste, n'est-ce pas, que finalement, avec Antoine Court, qui sera un homme remarquable par bien des aspects, eh bien, le protestantisme français va renier les Camisards auxquels pourtant il devait sa subsistance. Il faudra attendre 1861 avec Michelet, qui est pourtant un catholique, n'est-ce pas, pour que les Camisards soient réhabilités. Et Michelet va leur consacrer un volume entier de sa volumineuse histoire de France, vous savez. Il le fera sous l'influence d'Eugène Pelletan. Eugène Pelletan, qui est lui-même le petit-fils du pasteur Jean-Jacques Rousseau, qui était un des pasteurs du désert, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, et qui l'avait invité dans sa propriété de Saint-Georges de Didonne pour y écrire justement sa fameuse histoire de France. Et là, le soir, Eugène Pelletan raconte ce qu'a été l'épopée des Camisards à cet homme, Michelet, qui est absolument émerveillé et qui décide donc de réhabiliter les Camisards auprès des protestants eux-mêmes qui finalement les avaient aussi, comme je disais tout à l'heure, finalement abjurés. En fin de compte, si nous voulons faire un bilan de l'épopée camisarde, il faut bien reconnaître qu'ils ont sauvé le protestantisme en France. Ils n'ont pas gagné, à 100% bien sûr, Mais ils ont permis, justement, comme l'avait vu Clarisse sur la roue, m'en mourir, n'est-ce pas, à une foule immense de continuer à adorer le Seigneur. Ça, c'est la première conséquence et finalement la plus grande victoire qui ait été remportée par les Camisards. La deuxième conséquence, c'est que la population catholique française, du Languedoc en particulier, et même au-delà de Paris, les pouvoirs, que ce soit Louis XIV, puis ensuite Louis XV, et même enfin Louis XVI, n'est-ce pas, jusqu'à l'édit de tolérance donné par Louis XVI et la Révolution française pratiquement, eh bien, le pouvoir royal vivra dans la terreur d'une reprise de la révolte des Camisards. Le pouvoir royal est sorti traumatisé véritablement de la guerre des Camisards. Et il y aura de nouvelles vagues de persécution, notamment par exemple autour des années 60, sous Louis XV, mais le pouvoir royal n'osera plus aller trop loin. Plus jamais il n'y aura de persécution aussi violente qu'il y en avait eu sous Louis XIV. On ne revient pas sur la révocation de l'édit de Nantes, on ne revient pas sur les lois, finalement l'accord qui a été conclu, savoir on n'oblige plus ceux qui ne veulent pas aller à la messe de le faire, on permet une dévotion privée dans les maisons, on permet la possession de la Bible, mais voilà, ça s'arrête là. Bon, c'est déjà beaucoup. Ben, les protestants veulent plus. Et après donc l'écrasement de la révolte, les assemblées du désert vont continuer jusqu'à la Révolution. Mais le pouvoir royal n'osera plus réprimer d'une manière aussi féroce les assemblées interdites. Pourquoi ? Parce qu'on craint que si on va trop loin, eh bien la révolte reprenne. Et ça, c'est une deuxième victoire des Camisards. Si bien qu'avec le temps, il va y avoir une tolérance de fait, sinon de droit, n'est-ce pas, qui va s'instaurer. Et de plus en plus, le pouvoir royal est amené à fermer les yeux sur les incartades qui ont lieu par rapport à l'édit de Nantes, à la révocation de l'édit de Nantes. Par exemple, on sait qu'il y a des pasteurs qui viennent depuis la Suisse, depuis le refuge, pour prêcher l'Évangile. On pourrait, bien sûr, les traquer. Quand on tombe sur eux, bien sûr, alors là, bon, quand par hasard, c'est pas, on tombe sur eux, bon, ben, on les pend, on les brûle, on les roule, etc. Bien. Mais on ne les traque pas systématiquement, comme c'était le cas auparavant. Sauf quand il y a des fonctionnaires un petit peu trop zélés. Et si vous voulez, à partir de la fin de la révolte des Camisards, on assiste à cette situation où, si vous voulez, ça dépend un petit peu des situations locales. Le pouvoir royal, lui, laisse la bride sur le cou aux fonctionnaires. Alors, vous avez des fonctionnaires qui sont relativement tolérants, bon, qui ferment les yeux. Bon, nous aurons l'occasion de voir, n'est-ce pas, le maréchal de Santerre, n'est-ce pas, qui, lui, alors, quand il reçoit l'ordre d'aller arrêter un pasteur, fait rouler le tambour devant lui pour que le pasteur ait le temps de prendre la fuite. Alors, il arrive, il dit, j'ai essayé d'arrêter, il n'était pas là. Bon, voilà le genre. Bon, vous en avez d'autres, alors là, qui sont catholiques, jugulaires, et puis qui répriment, quoi. Ça dépend. Et puis alors, au fur et à mesure que le temps passe, la répression même devient de plus en plus molle, de plus en plus molle. Et finalement, quand à la veille de la Révolution française, eh bien, il y a une tolérance de fait. Une tolérance de fait qui s'est instaurée, et c'est la raison pour laquelle, finalement, Louis XVI prend un édit de tolérance qui sanctionne ce dans quoi on s'est installé dans la France de la fin du XVIIIe siècle. Alors donc, on peut dire que vraiment les Camisards ont sauvé le protestantisme en France et ont rendu une espérance à ceux qui n'en avaient plus. Et alors, des gens qui n'osaient plus s'affirmer protestants, eh bien, maintenant, vont le faire. Et c'est en cela qu'il va y avoir une renaissance aussi du protestantisme. Alors, cette période-là, on a un petit quart d'heure, on peut encore commencer un nouveau chapitre. Ça va être maintenant, si vous voulez, la période des pasteurs du désert. Après les prophètes, n'est-ce pas, ce sont les pasteurs du désert. Et le principal d'entre eux est Antoine Court, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui se convertit à l'âge de 5 ans, à une conversion réelle et authentique. Il a suivi sa mère, qui se rendait aux assemblées du désert, et fort intrigué de voir le manège de sa mère. Sa mère l'avait mis au lit, croyait qu'il dormait profondément. Antoine Court faisait semblant de dormir. Et dès que sa mère est sortie, il s'est levé du lit et il a suivi sa mère, qui ne savait pas. Et puis, il a assisté à la... auquel il n'est jamais assisté. C'était encore extrêmement dangereux à cette époque-là. C'était encore avant la fin de la révolte des Camisards. Et là, il est tellement bouleversé par la parole de Dieu que, bien que très jeune, âgé de 5 ans, il se convertit. Il se convertit véritablement. Sa mère le repère au milieu de la foule et après s'être converti, la prédication du l'assemblée durait des heures et des heures et plusieurs prédications. Bon, le jeune enfant, il s'endort sur les genoux de sa mère, mais il s'endort converti. Alors, il va suivre régulièrement les assemblées du désert, comme je dis tout à l'heure, pour se rendre compte qu'il y a des fausses prophéties. Il y a un deuxième personnage avec lequel il va se lier, c'est Jacques Bonbonnou. Jacques Bonbonnou, qui lui aussi est un garçon qui, en 1713, jeune garçon, a quitté sa mère pour répondre à l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu, c'était l'appel au pastorat, certes, mais aussi à la révolte armée. C'était encore avant la fin totale de la révolte des Camisards. C'était l'époque où se tenaient des séminaires secrets dans le désert, où l'on formait les pasteurs pour le service de Dieu. C'était en quelque sorte, comme il le dira lui-même dans ses mémoires, n'est-ce pas, le buisson qui brûlait sans se consumer. On fait des cultes un peu partout maintenant. L'exemple des Cévennes est devenu contagieux. Et c'est non seulement dans les Cévennes qu'il y a des cultes du désert, des cultes secrets, mais en Poitou, en Charente, en Normandie. Il y a à partir des Cévennes une véritable réévangélisation de toute la France. Et voilà ce qu'écrit Bonbonnou de cette époque, qui était une époque extraordinaire. « Il n'y avait jamais de dispute parmi nous. Tous nos biens étaient communs. Nous n'étions qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Les anciens veillaient au bon ordre et à la discipline. » C'est l'époque où Antoine Court essaye donc de créer pour des jeunes gens venant de toute la France le séminaire du désert. Vraiment, ce n'est pas facile, évidemment. Rassembler des jeunes gens venus de toute la France qui sont obligés d'étudier dans des grottes, de se cacher, de ne pas rester plus de 24 heures dans le même lieu, vous comprenez que ce n'est quand même pas une situation idéale pour étudier la Bible, quoi. Alors Antoine Court décide de quitter la France et il se retire à Lausanne où il va fonder un séminaire. Et il dit ce qu'il vaut mieux faire, c'est que les jeunes gens qui veulent se consacrer au ministère pastoral quittent la France, viennent pendant 3 ans étudier à Lausanne, en paix, dans la tranquillité, là ils sont sûrs qu'il n'y aura pas de dragon pour les arrêter, etc. Et quand ils sont formés, après on les renvoie en France. On les renvoie en Languedoc, on les renvoie en Poitou, on les renvoie en Normandie, on les renvoie dans la France entière. Et Antoine Court va fonder ce célèbre séminaire de Lausanne, qui existe encore d'ailleurs, n'est-ce pas ? Qui porte son nom. Et qui va former des générations et des générations de pasteurs jusqu'à la veille de la Révolution française. Et comme le dira Jacques Bonbonnou, n'est-ce pas, c'était un endroit où on se formait pour le pastorat, mais on se formait aussi pour le martyr. Et nombreux sont ceux, n'est-ce pas, qui, ayant été formés au séminaire de Lausanne, eh bien, finiront leur jour sur l'échafaud. Parmi un des plus célèbres sera Pierre Durand, le frère de Marie Durand, la fameuse Marie Durand, qui sera enfermée, comme on le sait, 38 ans dans la tour de Constance, sur laquelle nous aurons justement aussi l'occasion de revenir. Il y aura donc une centaine de pasteurs qui, jusqu'à la Révolution française, vont être formés. C'est une école où l'on apprend à mourir, dit Jacques Bonbonnou. Jacques Bonbonnou lui-même est né le 18 avril 1623 et il se marie en 1704. Il se marie en 1704 et sa femme est arrêtée. Elle est arrêtée et emprisonnée à la tour de Constance. Lui, Jacques Bonbonnou, a eu la faiblesse de faire bénir son mariage par un prêtre. Sa femme est libérée après quelques années d'emprisonnement, mais évidemment, sa santé est ruinée lorsqu'elle sort de la tour de Constance et elle meurt peu après sa libération. Jacques Bonbonnou en conçoit un vif chagrin. Et il attribue la mort de sa femme non pas à un mauvais traitement qu'elle a subi dans la tour de Constance, mais au fait qu'il ait fait bénir son mariage par un prêtre. Il se sent coupable devant Dieu de la mort de sa femme, donc pour cela, et il décide donc de consacrer sa vie à Dieu après la mort de sa femme, et donc il s'engage dans les Camisards sous la direction de Roland. Pendant tout un temps, donc, il va, avant de devenir pasteur du désert avec Antoine Court, dont il sera un des principaux seconds, il va être camisard. Il se joint à Clarisse, le prophète supplicié, qui sera un camarade de Bonbonou. Et avant de rejoindre Antoine Court en 1714, plutôt après l'écrasement de la révolte à Nîmes, avec les prédicants qui sont rescapés de la révolte. Là, ils envisagent la reconstruction du protestantisme. Après le supplice de Clarisse, Bonbonou se réfugie en Suisse, et là, il prend acte aussi de la dégradation du prophétisme. Bonbonou a lui-même été prophète. Il a lui-même prophétisé, été baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Mais en 1716, lorsque Antoine Court rassemble le premier synode du désert, le premier synode depuis la révocation des édits de Nantes, eh bien, le synode prend comme décision première, sous l'impulsion d'Antoine Court et de Jacques Bonbonou, d'anathémiser, de condamner le ministère prophétique. Ça, c'est la première décision que prend ce synode du désert. C'est un désastre. En 1728, il est décidé que vont être créés des pasteurs itinérants qui se déguisent en marchands. Ils exercent la profession de marchand parce qu'il faut vivre aussi, n'est-ce pas ? Marchands itinérants, comme il y en avait à cette époque-là, colporteurs, mais en fait, ce sont des pasteurs. Et partout où ils passent, ils organisent des assemblées secrètes, les fameuses assemblées du désert. Jacques Bonbonou va exercer son ministère pendant 27 ans, avant lui aussi de passer en Angleterre. Et les mémoires, il a écrit ses mémoires là-bas en Angleterre, qui sont tout à fait intéressantes sur ce qu'était la vie des camisards. Voici par exemple ce qu'il écrit. « Jamais nous ne passions de nuit au même endroit. Nous étions ravitaillés par la population. Nous étions organisés, dit-il, en brigade de 40 hommes. » Et il raconte, c'est lui qui raconte comment un soir, Cavalier avait déclaré sous la direction du Saint-Esprit, « Il y a de l'interdit au milieu de nous. » Et en effet, Cavalier affirme que quelqu'un a pris une somme d'argent dans un presbytère qui a été détruit et que cet argent aurait dû être consacré au Seigneur. C'est un petit peu le péché d'Acan, si vous voulez. C'est l'épisode d'Acan qui se reproduit. Et de fait, le coupable se dénonce lui-même et jette la bourse avec les louis d'or qu'elle comptait dans le gardon. Voyez-vous, les camisards n'étaient pas du tout intéressés par l'argent. Finalement, ces louis d'or, quelques temps après, le Seigneur leur dit de les récupérer et de les utiliser pour les besoins qui sont les leurs. Et donc, ils seront rendus à Cavalier qui les distribue ensuite pour cela et ensuite aussi le restant pour les pauvres. Jacques Bonbonou évoque ce qu'étaient les problèmes des camisards et essentiellement les difficultés de ravitaillement, puisque le maréchal de Villars détruisait systématiquement les moulins. Que les camisards reconstruisaient. Alors c'était constamment, n'est-ce pas, destruction, reconstruction. Bonbonou lui-même sera accusé d'avoir voulu déserter après la mort de Roland, et il est obligé de se cacher dans les vignes pour échapper aux dragons. Il est sans cesse traqué, il passe la nuit dans des fosses, les dragons incendient les récoltes de blé, etc. Et Bonbonou sera avec Mazel et Marion parmi ceux qui refuseront de déposer les armes. Alors il évoque cette dernière période de l'épopée des ultimes camisards, n'est-ce pas ? Alors un soir qu'il lit la Bible, n'est-ce pas, avec ses camarades, un détachement le surprend. Et alors il est le seul à pouvoir s'échapper. Tous ses camarades sont morts. Alors il reçoit de Dieu une révélation qui lui dit « Tous nos prédicateurs sont morts ou vendus, mais Dieu pourvoira et on en verra d'autres. » Et c'est ce qui se passera effectivement avec Antoine Court. Bonbonou dit qu'ils étaient portés par une grâce extraordinaire qui faisait qu'ils se sentaient assez forts pour résister à toutes les tentations. Et il retourne tout simplement dans la grotte où ses compagnons sont morts pour reprendre son étude. Quelque temps plus tard, il tombe malade et il se réfugie dans une caverne. N'est-ce pas ? Il n'a personne pour le soigner. Il se confie dans le Seigneur. La nuit, il sort pour chercher sa nourriture et de l'eau. Il doit changer constamment de lieu. Et il craint d'être découvert, de manquer de nourriture. L'hiver, quand il y a de la neige, il craint de laisser des traces dans la neige. Enfin, vous voyez, une vie épouvantable que ces pauvres gens mènent. Et puis la terreur que font régner les dragons fait que personne n'ose leur venir en aide. De nombreuses fois, il est trahi par des faux frères. Certes, il est parfois emprisonné, il parvient à s'échapper. Il se rend à Montpellier chez des amis qui l'accueillent, mais il est trahi et il doit s'enfuir. Il doit se cacher pendant 3 jours pendant que toute la maréchaussée bat la campagne pour essayer de le retrouver. Et finalement, depuis Montpellier, il parvient à rejoindre les Cévennes. Il est décidé à mourir plutôt que de tomber vivant entre les mains de l'ennemi. Une nuit, il quitte la montagne et se décide de passer en Suisse sur la proposition de Clarisse. Là, il reçoit l'aide d'un de ses amis, dans la maison duquel il entreprend des réunions, et finalement, il est à nouveau trahi. Avec 3 amis, il est arrêté, il parvient à s'enfuir après avoir été blessé. Il se cache dans un tonneau et là, il attrape la variole. Il en réchappe par miracle, par l'intervention de Dieu, et il reprend des réunions alors qu'il est traqué. Il rassemble 300 personnes, il leur tient une réunion dans une propriété qui est cernée. Il parvient à nouveau à s'enfuir, c'est un véritable miracle. Il dit ceci, « Moins heureux que Jacob, je n'avais pas même une pierre pour faire mon chevet. » Il est finalement arrêté, emprisonné à la tour de Mauvert, d'où il s'échappe après avoir enivré des soldats. Il revient chez les siens. Et là, se produit exactement ce qui s'est produit pour Pierre quand il a été emprisonné. Il frappe une fille, vient ouvrir, et le reconnaît. Il dit, c'est pas possible que ce soit lui, n'est-ce pas ? Et en fait, c'était bien Bonbonou qui était là en chair et en os. En tout cas, son épopée dure jusqu'après donc, la 1713. Et là, il va donc rejoindre Antoine Court, comme nous l'avons vu, et l'aider à reconstruire l'église de France. À la fin de la vie de Bonbonou, 110 églises auront été restaurées en France, en Guyenne, en Poitou et en autres lieux où on envoie des prédicateurs. En Normandie, à cette époque-là, on compte déjà 60 000 croyants. Et les pasteurs ont pour tâche, d'une part, n'est-ce pas, de célébrer la Sainte-Cène. Et c'est une grande joie quand un pasteur vient, parce qu'on a des prédicateurs, bien sûr, mais on n'a pas de pasteur. Et on ne célèbre la Sainte-Cène que quand les pasteurs sont là. Les pasteurs aussi célèbrent les mariages, les baptêmes, etc. Enfin, tous les actes pastoraux qui ne peuvent pas avoir lieu quand les pasteurs ne sont pas là. Mais il y a de très nombreux mariages. Les mariages du désert ne sont pas reconnus, bien entendu, par l'autorité. Et alors, on continue à considérer les protestants mariés au désert comme des concubins. Et leurs enfants n'ont pas le droit d'hériter. Ça, c'est aussi un problème qui va demeurer jusqu'à l'édit de tolérance de Louis XVI. Parfois, les enfants qui sont nés de ces mariages illégitimes, entre guillemets, sont enlevés, carrément, n'est-ce pas ? Les enlèvements d'enfants sont nombreux. Et entre 1723 et 1768, il y aura 200 prisonniers à la tour de Constance qui passeront dans la sinistre tour de Constance pour ne parler que d'elle, sans parler des autres prisons du royaume. Il y a encore une prophétesse qui va intervenir dans cette époque-là, n'est-ce pas, qui parlait en hébreu. C'est extraordinaire, elle n'avait jamais appris l'hébreu et elle parlait hébreu. Voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut qualifier comme l'épopée de Bonbonou et d'Antoine Court, la reconstruction de l'Église de France et des pasteurs du désert. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus, rapidement ?